Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Éloge de la rencontre, c'est le titre de l'ouvrage de l'invité de Radio Présence aujourd'hui. Il affirme d'entrée de jeu qu'il n'est pas de vie véritablement humaine sans rencontre. Dans quel type de rencontre parlons-nous? Comment celles-ci nous font-elles grandir? Éloge de la rencontre est le titre de l'ouvrage du père Pierre-Alain Lejeune, curé de la paroisse Saint-Joseph des Jalles. Il est en duplex avec nous depuis les studios de RCF Bordeaux. Bonjour père.
Bonjour.
Merci de nous accorder votre première émission sur votre livre. Et nous allons tout de suite commencer à nous plonger dedans. Vous introduisez d'emblée votre récit par une rencontre. Le récit d'une rencontre qui vous permet de dire « Je suis grandi ». Quelle différence avec « J'ai grandi » ?
Précisément, c'est effectivement la question que je me pose en introduction. C'était après une rencontre très marquante de ma vie et ce sont des mots qui se sont comme imposés à moi. Je suis grandi et j'ai mis un bon moment à comprendre effectivement la particularité de cette tournure. Quand on dit j'ai grandi, on a le sentiment d'être un peu premier acteur de cette croissance. Et moi, j'avais le sentiment de ne pas avoir fait grand-chose, mais d'être grandi par quelqu'un d'autre. Et vraiment, cette tournure passive m'a inspiré dans l'introduction de ce livre. Il y a des rencontres qui nous grandissent sans qu'on y soit vraiment pour quelque chose.
Et on en est bénéficiaire, finalement.
C'est ça, plus bénéficiaire qu'acteur.
Ouais,
je crois qu'il y a quelque chose de ça dans ces mots qui, ce jour-là, m'ont envahi l'esprit et ont habité ma prière pendant longtemps. Je suis grandi.
Je suis grandi, oui, c'est une expression qui est tout à fait intéressante et qui permettrait aussi de faire une relecture peut-être sur des événements de sa vie en se disant où est-ce que, à quel moment je peux dire je suis grandi et pas j'ai grandi. Ça pourrait être intéressant aussi comme exercice.
Oui.
Alors, vous parlez de ce désir. Hein. L'homme est un être de désir. Le catéchisme de l'Église catholique stipule que Dieu a mis ce désir dans le cœur de l'homme afin de l'attirer à lui qui seul peut le combler. Et Père Pierre-Alain Lejeune, vous dites que l'homme n'a pas vraiment compris l'objet de ce désir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui n'est pas compris justement ?
En fait, effectivement, nous sommes traversés par une quantité de désirs parfois très paradoxaux et contraires. Et ce que nous n'avons peut-être pas compris, c'est que souvent, ces désirs nous font peur parce qu'ils nous attirent vers des choses mauvaises, en quelque sorte, hein, et parce que ce désir peut être perverti. Et la grande ambiguïté, c'est d'en venir à penser que sous prétexte que nous avons des désirs mauvais, des désirs, comme on dit, désordonnés, c'est-à-dire qui nous orientent vers une mauvaise fin, alors nous pensons que du coup, il faudrait annihiler ce désir, qu'il faudrait le tuer pour ne pas être entraîné, ce qui est une erreur grave parce que derrière tous ces désirs désordonnés, il y a le grand, le vrai désir, celui qui vient de Dieu, celui qui est source de vie en nous. Et ce n'est pas de tuer le désir qui va nous délivrer du mauvais, c'est au contraire de retrouver le vrai désir, celui qui est plus profond, plus vrai, plus grand que tous nos désirs désordonnés, en quelque sorte.
Mais alors, comment ça se fait que les orientations, les choix de vie ne soient pas tous bons, alors que justement, on a ce grand désir qui est le désir de Dieu, qui est bon?
Et oui, parce que nous nous laissons tromper, en fait. Ouais. Nous nous laissons tromper par... ça serait un peu long de rentrer dans ce long débat, mais c'est la marque du péché au cœur des hommes, c'est-à-dire que nous en venons à penser que des choses un peu futiles pourraient nous combler. Et c'est vrai que la société qui est la nôtre particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire cette société de consommation, fonctionne sur ce ressort-là. Elle nous fait croire que nous pourrions être comblés par toutes sortes de choses qui sont dérisoires, finalement, au regard de ce que Dieu, lui, veut nous donner.
Oui.
Et alors, effectivement, il est tellement fréquent, et en fait, ça nous arrive à tous, en fait, de nous laisser tromper et de croire que ce désir immense que nous pressentons bien, qui est en nous, nous pourrions le combler par toutes sortes de stratagèmes un peu ridicules, un peu dérisoires. Et alors nous cherchons à combler cela, à combler ce désir ou ce puits. J'aime bien parler du puits intérieur parce qu'il me rappelle
la rencontre
avec la Samaritaine, entre Jésus et la Samaritaine. et nous cherchons à combler un puits qui, en fait, c'est peine perdue parce que ce puits n'a pas de fond. Il est sans fond, il est infini, puisqu'il est fait pour Dieu.
Oui, et puis c'est de l'eau qui ne désaltère pas, comme dit le Christ à la Samaritaine. Comment faudrait-il alors, comment retrouver ce vrai désir que Dieu met dans le cœur de chacun ?
Eh bien, précisément, il me semble que les rencontres que nous vivons dans nos vies, les belles rencontres, les plus grandes rencontres, celles qui nous grandissent, nous font retrouver le goût de ce désir qui n'est pas à combler, mais qui est comme un espace de rencontre, comme un lieu où on va pouvoir rencontrer les autres et où ça va nous grandir. Retrouver le vrai désir en Dieu, c'est débusquer d'abord nos stratagèmes inconscients, bien sûr, de tentative de comblement de ce désir, donc tous ces désirs désordonnés en nous qui nous précipitent vers des choses mauvaises et dérisoires, et de rechercher vraiment à rencontrer les autres, non pas pour les prendre pour nous de manière un peu possessive, non pas pour essayer de boucher un vide en nous ou de combler une solitude, mais simplement pour les rencontrer réellement. Et il me semble que quand on rencontre vraiment une personne à ce niveau-là de l'être et de la rencontre, alors on touche un peu du doigt ce qu'il y a d'immense et d'infini en chacun de nous. Et je crois vraiment que ça nous rapproche de Dieu, je le crois.
Oui. Et on va parcourir tout au long de votre livre, effectivement, ces rencontres qui nous font grandir et puis qui nous amènent à la rencontre de Dieu lui-même. Vous dites, Père Pierre-Alain Lejeune, dans votre ouvrage, il faut sortir de soi pour se trouver soi-même. Quelles étapes ça implique ?
Sortir de soi, ça fait un peu peur de cette expression-là, c'est vrai. Et pourtant, c'est une expression biblique, c'est une expression profondément chrétienne. Sortir de soi, c'est-à-dire sortir de ce moi un peu égocentré que nous sommes au départ.
Ouais.
Au départ, nous sommes tous faits comme ça. Nous sommes centrés sur nous, sur nos désirs possessifs, sur notre nombril. Et c'est seulement quand on sort de cela, quand on sort de la seule préoccupation de nous que l'on devient soi-même, en fait, en quelque sorte. Les étapes sont multiples, bien sûr. Et nous avons tous à faire ce chemin depuis notre plus tendre enfance jusqu'à, je le pense, le jour où nous serons en Dieu et complètement libérés de cet ego qui nous étouffe un peu. Mais je crois vraiment que, là encore, les expériences d'amour que nous pouvons vivre dans notre vie nous aident à cela. Elles nous conduisent sur ce chemin. Vous savez peut-être que le mot « exode » qui est profondément biblique, veut dire le chemin qui mène dehors. Exodos en grec, c'est le chemin qui mène dehors. Eh bien, l'exode qui nous est raconté, l'exode du peuple des Hébreux, de l'Égypte à la terre promise, dit quelque chose de très beau sur le chemin de toute vie. En fait, nous avons tous à vivre ce chemin de sortie de nous-mêmes pour devenir enfin nous-mêmes.
Oui. Et devenir, sortir de nous-mêmes pour devenir nous-mêmes, ça passe aussi par la rencontre avec l'autre, puisque par cet effet miroir, finalement, il va nous apprendre à mieux nous connaître et à sortir de nous-mêmes. C'est ça ?
C'est ça. Il va nous apprendre à mieux nous connaître et à mieux aimer la personne que nous ne sommes pas encore, c'est-à-dire ce que nous avons à devenir. Parce que je crois qu'il faut partir du principe que nous ne sommes pas encore vraiment nous-mêmes.
Ah oui.
Au début de la vie, nous sommes un peu une caricature de nous. Le petit enfant est une merveille, je ne dis pas le contraire. Le petit enfant est très inspirant et le petit enfant que nous avons été est aussi un trésor magnifique à contempler, mais il a quelque chose qui n'est pas du tout abouti.
Vous dites même que l'homme est un brouillon au début.
Mais oui, nous sommes qu'un brouillon, nous sommes une caricature de nous et c'est d'accepter cela, c'est d'accepter que nous avons à devenir celui que nous ne sommes pas encore, c'est-à-dire la personne qui est vraiment à l'image de Dieu, celle que Dieu veut, qu'il appelle à devenir. Alors s'ouvre un chemin, un exode qui nous fait vraiment advenir à nous-mêmes. Et je crois que la rencontre avec les autres nous aide considérablement sur ce chemin-là de sortie de nous-mêmes, sortie de ce premier moi un peu centré sur lui-même, vers cet autre moi que l'on peut appeler de bien des manières, mais qui est celui qui sait aimer, qui sait se donner, qui sait ne plus se regarder lui-même, mais apprendre vraiment à aimer l'autre.
En quoi les techniques de développement personnel vont à l'encontre justement de cette connaissance de soi pour après être tourné vers l'autre ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques à la mode. On entend beaucoup parler en ce moment de techniques de développement personnel, de méditation et autres techniques, mais elles ne sont pas mauvaises en soi, mais il leur manque quelque chose. Enfin, plutôt, elles induisent un risque considérable, c'est précisément de centrer l'individu sur lui-même. Et méditation en pleine conscience et toutes ces techniques-là très à la mode, je crains fort qu'elles jouent sur le ressort de l'ego, c'est-à-dire de la recherche du plein épanouissement de moi-même, de la recherche de la satisfaction de moi-même. Toujours, il manque quelque chose de fondamental à toutes ces techniques, c'est la rencontre d'un autre,
oui, c'est ça.
D'un autre que soi, qui précisément doit me libérer du souci de moi. Et ça, notre époque là-dessus est très ambivalente. Je suis toujours très méfiant vis-à-vis de l'expression maintenant universelle, vous savez, prends soin de toi. Oui, alors ça dépend ce qu'on dit,
hein,
parce qu'il y a une manière de prendre soin de soi qui est très très égocentrée et qui passe à côté de la rencontre, il me semble.
La rencontre se fait dans la différence et vous constatez que ce mot a quasiment disparu de notre vocabulaire, laissant la place au mot diversité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Père Pierre-Alain Lejeune, la différence quand même entre ces deux mots?
Et oui, c'est vrai qu'on ne parle plus de différence. On a même l'impression que ce mot fait peur.
Oui, c'est vrai.
Et on parle beaucoup de diversité. La diversité, on pourrait dire, ça fait référence aux options que je peux prendre dans ma vie. Un peu comme devant un étal, le supermarché, je peux choisir ceci ou cela, et c'est la diversité. Voilà. La différence, c'est ce que je n'ai pas choisi. Je suis né à telle époque, je suis né homme ou femme, je suis né dans telle famille, avec telle histoire, tout ce que j'ai reçu sans le choisir dans l'existence. Et nous avons très peur de cela parce que nous craignons, enfin, ou plutôt nous voulons, à juste titre, nous voulons lutter pour l'égalité, mais du coup, nous n'arrivons plus à penser l'égalité autrement que comme un nivellement de la différence. Comme si être égaux signifiait pour nous qu'il n'y ait plus de différence entre nous. Je crois que c'est une erreur gravissime aujourd'hui et qu'il faut absolument que notre monde retrouve la beauté de ce qu'est la différence. Nous ne serons pas égaux le jour où nous serons tous pareils. Nous serons égaux le jour où les différences seront reconnues comme autant de richesses. Et Dieu, je le crois, je le vous lis dans les premières pages de la Bible, nous a voulu différents, hommes et femmes, et cette différence originaire, on va dire, nous indique que c'est d'être différent qui nous permet de nous rencontrer. C'est de ne pas être pareil qui crée de la relation. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons très peur de cela.
Et on a
quoi
peur
qu'en dise le politiquement correct, nous avons très peur de la différence.
Et nous avons très peur aussi de ne pas être tout. Vous dites, il est bon de ne pas être tout. Et c'est contradictoire aussi avec l'éducation à l'autonomie que nous transmettons souvent à nos enfants. Comment comprendre que cette incomplétude est une bénédiction?
Oui, je constate que dans le récit de la Genèse, lorsque Dieu crée l'homme à son image, il les crée homme et femme. Et que donc, ni l'un ni l'autre ne peut se considérer comme le tout de l'humain. Sauf qu'au départ, cet état de fait est considéré et regardé par l'un et l'autre, par Adam et Ève, comme une bénédiction. Vous savez qu'au départ, il est écrit qu'ils sont nus et qu'ils n'ont pas honte d'être nus l'un devant l'autre. C'est donc qu'ils constatent qu'ils ne sont pas tout, puisque l'autre est différent. Ils prennent acte de cette différence. En fait, ils prennent acte du fait qu'ils ne sont pas tout, qu'ils sont limités. Et s'ils n'ont pas honte, j'entends par là que c'est pour eux une bénédiction de ne pas être tout. Parce que si je ne suis pas tout, c'est que je vais pouvoir recevoir de l'autre. C'est que je vais pouvoir vraiment rencontrer l'autre pour lui-même, que c'est un cadeau, une richesse, l'autre. Et ça fait bizarre à nos oreilles d'entendre ça. Il est bon de ne pas être tout. Il est bon d'être limité. Ça fait bizarre à nos oreilles précisément parce que nous n'en sommes plus là, parce que le péché est venu abîmer cela et que ce sera le discours du serpent de la Genèse qui fera entendre qu'au contraire, c'est tellement désirable d'avoir tout, d'être tout, de pouvoir tout.
Oui, c'est
précisément
une grande tentation, ça.
La marque de notre péché, je crois.
Oui, c'est ça, la tentation de dominer finalement.
Oui, de dominer, oui. D'être totalisant, de tout prendre pour soi et de se croire tout puissant en quelque sorte.
Et donc il y a un combat Pardon, je vous laisse terminer.
Non, je voulais juste dire, voilà, c'est notre condition d'aujourd'hui. Nous sommes marqués par ce désir de toute puissance, évidemment.
Et donc, il y a un combat qui doit se jouer pour justement ne pas être dans la domination et avoir cette rencontre qui soit dans la différence et avec cette incomplétude, accepter que l'autre nous complète finalement.
Oui, c'est un combat, exactement. C'est aussi un des points que j'aborde dans ce livre. Le seul combat qui mérite d'être mené, il n'est pas contre l'autre, il est en nous, en nous-mêmes. Un combat secret en quelque sorte, un combat pour se vaincre soi-même, comme dit Saint Ignace de Loyola, pour vaincre en nous cette illusion ou ce fantasme de la toute-puissance. Et c'est seulement quand on accepte ce combat en nous qu'il me semble qu'on se présente devant l'autre plus en vérité, quoi. Je prends l'exemple du combat de Jacob dans la Bible. Jacob qui, pour retrouver son frère Ésaü, avec lequel il s'est disputé à mort, va devoir combattre contre un être étrange. Est-ce un ange? Est-ce Dieu? On ne sait pas trop. Et il sortira blessé de ce combat. Et c'est seulement après qu'il va pouvoir rencontrer son frère Ésaü, et cette rencontre va être belle, fraternelle, une vraie réconciliation. Mais la blessure à la hanche dont Jacob va être marqué dit quelque chose de ce combat intérieur que nous avons à vivre contre notre propre violence, contre notre propre désir de dominer l'autre, je crois vraiment.
Et ça se vérifie aussi dans la vie conjugale?
Oh combien.
Oh combien.
Alors je dis cela alors que je suis prêtre et donc célibataire, donc je vois ça un peu de l'extérieur.
Mais vous accompagnez quand même de nombreux couples.
Et j'accompagne beaucoup de couples avant, pendant et après le mariage, et je fais ce constat que ce combat qui est une vérité dans toute relation humaine l'est peut-être plus encore dans la relation conjugale, probablement parce que c'est précisément là où les êtres sont le plus engagés, y compris charnellement. Et je constate que ce combat est rude pour les couples et qu'il prend toute la vie, mais que dès lors qu'on accepte ce combat intérieur, eh bien, il me semble que l'amour grandit entre les époux. Mais pour ça, il faut accepter de s'altérer mutuellement. Vous savez, le verbe « altérer », il vient du mot « altérité », c'est l'autre en fait. C'est l'autre qui m'altère, c'est-à-dire c'est l'autre qui m'éprouve, qui fait ce travail en moi d'altération, si je puis dire, mais qui me bonifie, bien sûr, c'est-à-dire qui vient frotter en moi comme les galets dans le ruisseau, hein, qui, à force de se frotter les uns contre les autres, deviennent plus lisses, plus doux. Je fais le constat, en accompagnant des couples, qu'en traversant de grandes crises aussi, parfois, de grands combats, en fait, dès lors que le combat intérieur est accepté, alors les époux grandissent dans leur amour mutuel et ils grandissent eux-mêmes en devenant plus humains, je crois.
Ouais.
Oui, plus humains.
Et ça implique aussi une forme d'appauvrissement?
Oui, parce que, aussi étrange que ça puisse paraître... La pauvreté est un trésor, en fait, un trésor qui nous fait peur lui aussi. Saint François d'Assise, bien sûr, en a été le héros de la pauvreté. Non pas la misère, la faim et enfin, toute la misère qu'il faut combattre tous les jours sur notre terre. Bien entendu, là, on parle de la pauvreté fondamentale, c'est-à-dire de se reconnaître pauvre. Mmh. C'est-à-dire l'abandon de cette posture de toute puissance où... Que nous avons toujours tendance à adopter pour aborder l'autre dans une position dominante. Eh bien, c'est seulement quand on consent à sa propre pauvreté que l'on cesse de chercher à dominer, à faire étal de toutes nos richesses et de tous nos trésors qui écraseraient l'autre dans la relation. Mmh. Étrangement, dans l'Évangile, on découvre que c'est lorsqu'on est vraiment pauvre qu'on peut enfin tout donner. Tant qu'on est riche, on ne donne pas grand-chose.
Oui, et c'est l'exemple du jeune homme riche qui quitte le Christ tout triste parce qu'il n'a pas pu se séparer de ses biens et se laisser déposséder, en fait. Ouais.
Ouais. Exactement. Il avait trop de richesses. Jésus lui répond est très beau à ce sujet puisque Jésus lui dit « une seule chose te manque ouais. ». Alors on se demande qu'est-ce qui peut manquer à cet homme qui est pourtant très riche. Et on découvre que ce qui manque à cet homme, c'est de manquer précisément.
C'est ça.
Il lui manque la pauvreté. Ce qui nous manque la plupart du temps, c'est que nous ne manquons pas assez. Nous n'éprouvons pas assez ce manque fondamental qui est en nous et qui nous rend dépendants, entièrement dépendants de Dieu. Si nous avions vraiment conscience de dépendre radicalement de tout notre être, de la puissance de Dieu et de son amour, nous nous reconnaîtrions beaucoup plus facilement pauvres comme Saint François d'Assise et tant d'autres. Et je pense que les relations entre nous seraient beaucoup plus vraies.
Et oui, puis c'est un manque qui crée le désir, enfin qui le fait grandir en tout cas.
Oui, ouais. C'est ça. C'est un manque qui fait grandir le désir.
Oui, Oui. Avant de marquer une pause musicale, Pierre-Alain Lejeune, vous écrivez dans votre livre « Le corps est le lieu de notre engagement plein et définitif dans cette vie, le lieu de toutes nos rencontres ». Et c'est vrai que de même que Dieu s'est fait homme, la rencontre se matérialise par des gestes. On a peut-être un petit peu oublié ça à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des GPA-PMA, où finalement on sort le corps de la relation.
C'est tellement vrai ça. C'est tellement vrai que nos relations ont tendance à se désincarner progressivement, le sans-contact et toute cette illusion que nous pourrions nous rencontrer sans contact, ouais, sans lien.
Sans toucher. Ouais.
Et je fais, dans ma vie de prêtre, je fais souvent cette expérience que la rencontre se vit charnellement ou elle ne se vit pas. Alors, vous pourriez me dire, c'est étrange d'entendre ça de la part d'un prêtre célibataire. Bien sûr, moi, je parle pas de la relation conjugale, mm-hmm. qui, elle, se vit très charnellement. Mais en fait, toute rencontre se vit charnellement d'une manière ou d'une autre. Et dans notre foi chrétienne, qui repose tout entière sur ce mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le Verbe s'est fait chair, notre Dieu s'est fait homme, nous avons un trésor inouï dans notre foi chrétienne et qui s'exprime très spécialement dans la célébration des sacrements. Les sacrements, c'est toujours le corps qui est en jeu. C'est toujours le corps qui est sollicité, que ce soit le baptême, dans l'Eucharistie. Nous faisons des choses très concrètes et très charnelles. Est-ce que nous avons assez réfléchi au fait qu'au cœur de la foi catholique se trouve le geste le plus charnel qui existe ? Il s'agit de manger, de boire,
oui.
l'Eucharistie. C'est comme ça que nous rencontrons vraiment le Christ, parce que notre foi n'est pas une idée, juste une pensée. Elle est aussi vraiment un contact charnel. Et c'est en chair et en os, en quelque sorte, que nous le rencontrons dans chacun des sacrements que nous célébrons. Il me semble que les sacrements nous aident à retrouver le vrai chemin de la rencontre humaine telle que Dieu l'a voulu, qui est une rencontre réelle. Nous ne sommes pas de purs esprits, nous sommes corps et âme. Et c'est corps et âme que nous nous rencontrons les uns les autres, mais aussi le Christ, nous le rencontrons corps et âme, je le crois, à travers les sacrements.
Oui, vous avez raison de le rappeler, Père Pierre-Alain Lejeune. Je vous propose de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons « Je veux voir Dieu » interprété par l'Institut Notre-Dame de Vie.
Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Éloge de la rencontre, c'est le titre de l'ouvrage du père Pierre-Alain Lejeune, curé de la paroisse Saint-Joseph des Jalles. Avec vous, nous avançons pas à pas dans les différentes étapes de la rencontre. Se trouver soi-même, accepter la différence et l'incomplétude, prendre part au combat pour une rencontre qui fait grandir et se délester de ce qui nous encombre. Enfin, accepter que la rencontre soit réelle et non virtuelle. Père Pierre-Alain Lejeune, vous abordez dans votre ouvrage la fraternité, qui est autre que celle prônée par notre devise républicaine. La rencontre se tisse à travers la fraternité et conduit à la communion, dites-vous. Qui sont nos frères et nos sœurs ?
Frères et nos sœurs, ce sont ceux que nous n'avons pas choisis.
Ah.
Et ben, dans la vie, déjà, moi j'ai des frères et sœurs de sang, je ne les ai pas choisis sur catalogue, je les ai reçus un jour. Et c'est avec cette notion-là de la fraternité que nous avons un peu de mal aujourd'hui, où on sent bien que notre société va de plus en plus vers des îlots un peu communautaristes, un peu où on se retrouve entre gens un peu pareils. Or, dans devise républicaine, précisément, figure le mot fraternité. Mais avons-nous vraiment saisi et pesé tout ce qu'il signifie ? D'abord, pour être frère, il faut reconnaître que nous tenons la vie d'un même père ou d'une même mère. Et ça, dans la devise républicaine, qui est au départ, en tout cas, inspirée de foi chrétienne, il me semble que nous avons un peu perdu ça. De qui sommes-nous, frères et sœurs ? Dans l'Église, nous reconnaissons que nous sommes frères et sœurs d'un Père du ciel, et que donc, que nous le voulions ou non, il y a quelque chose entre nous qui nous unit, que nous n'avons pas voulu, que nous n'avons pas décidé, qui ne dépend pas de nos opinions communes ou du fait que nous serions bien d'accord sur telle ou telle chose. En fait, ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est la communion de personnes qui ne se ressemblent pas, mais qui reconnaissent que quelque chose ou quelqu'un de plus grand les unit les uns aux autres. Et c'est cette fraternité que, il me semble, on a vraiment intérêt à retrouver, y compris dans l'Église aujourd'hui.
Et c'est se reconnaître finalement enfant du même père. C'est ça ?
C'est se reconnaître enfant du même père. Et donc, nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, décider de ce qui nous fait frères et sœurs. C'est un peu une tentation dans l'Église de vouloir, en quelque sorte, que notre communion reposerait sur des idées communes. Est-ce que nous sommes bien d'accord sur tout ? En fait, dans l'Église, nous ne sommes pas d'accord sur plein de choses. Et tant mieux. Nous sommes d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la foi, le credo, ce qui nous réunit. Mais il nous faut entrer dans cette fraternité plus grande que précisément ce n'est pas sur la base d'un consensus que nous nous retrouvons. Parce que nous ne sommes pas une association ou une organisation non gouvernementale quelconque en fait. Nous sommes la communion de ceux que Dieu a mis au monde, à qui il a donné la vie.
Vous avez Pierre-Alain Lejeune, ce très beau passage de Moïse au mont Horeb qui retire ses sandales, pour qu'il soit vraiment dans une attitude de vérité, pour que chacun soit dans une attitude de vérité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce lien, en fait, cet acte de foi qu'il faut poser pour consentir au risque de la rencontre ?
Oui, j'aime beaucoup ce passage dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, où c'est le passage du buisson ardent, où Moïse s'approche d'une chose étrange, un buisson qui brûle sans se consumer, et Dieu lui dit « Retire tes sandales, car la terre sur laquelle tu marches est une terre sainte. » Et il me semble que ça dit vraiment quelque chose, bien entendu, de notre relation à Dieu, mais plus encore de la relation à toute personne. Retire tes sandales, c'est-à-dire accepte d'être pieds nus sur la terre. Quand nous sommes pieds nus sur la terre, sur l'humus, d'où vient le mot humilité, parce que nous reconnaissons que nous sommes tirés de cette terre-là, on aborde autrement l'autre. Et en tout cas, c'est un verset de la Bible qui me revient continuellement à l'esprit quand je sais que je vais vivre une rencontre qui est très compliqué peut-être, ou qui m'engage beaucoup. Je pense notamment à la visite des mourants, qui arrive régulièrement dans ma vie de prêtre. Et je prie toujours avant de pousser la porte d'une chambre avec ces mots-là, « Retire tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. » C'est-à-dire l'histoire de la personne que tu vas rencontrer, sa vie, c'est une terre sainte. Il faut l'aborder avec un infini respect, la plus grande humilité que tu puisses, dont tu puisses faire preuve. Je trouve que lorsqu'elle est abordée ainsi, la rencontre peut vraiment être belle, parce que précisément on reconnaît qu'on est devant un mystère infini et une terre sainte qu'on ne peut fouler que les pieds nus.
Ça me fait penser à un chef d'entreprise qui me racontait à cette antenne qu'avant d'entrer dans une pièce où il allait avoir une réunion qui s'annonçait difficile, il marquait un temps d'arrêt et il invoquait l'Esprit-Saint en disant « passe d'abord ». Et c'est un peu ça, cette façon de retirer ses sandales.
Tout à fait.
Au fil de votre livre, nous passons progressivement de la rencontre à l'amour. Et c'est vrai que vous citez toutes ces rencontres que Jésus fait dans la Bible, dans son évangile, la Samaritaine, le Bartimée, Zachée, Marie-Madeleine et bien d'autres. Qu'est-ce que Jésus dit de lui à travers ces différentes rencontres ?
Ça, c'est une très grande question, magnifique. Qu'est-ce que Jésus dit de lui à travers ses rencontres ? Parce que c'est précisément ça. Alors, je pense particulièrement à l'évangile selon saint Jean, où chaque rencontre de Jésus, à travers la personne qu'il rencontre, nous découvrons quelque chose de Jésus. Alors, vous avez cité la Samaritaine, et notamment Jésus dit de lui quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il aborde la rencontre en demandant quelque chose à cette femme. « Donne-moi à boire ». C'est incroyable quand même. Pas seulement que Jésus ait soif, bon, ça déjà c'est beau, mais qu'il se place en position de demandeur, presque de mendiant. Et il nous apprend par là que pour lui, demander quelque chose, c'est déjà aimer. Nous avons du mal à comprendre ça. Nous avons toujours dans l'idée que aimer, c'est donner à l'autre. Donner de soi à l'autre ou donner, c'est ça aimer.
Ouais. Or, on est dans le service,
Jésus,
en fait.
Nous ne pouvons pas soupçonner.
Ouais.
Pardon ?
On est dans le service, en fait, et puis même dans l'Église,
c'est ça, exactement.
On nous dit qu'il faut
on est toujours dans le service dans l'action qui nous donne l'impression qu'on aime. Or, Jésus se place dans la passivité, dans la demande, donne-moi à boire, et nous ne pouvons pas soupçonner un instant qu'à cet instant-là, Jésus n'aime pas cette femme profondément comme Dieu nous aime, il l'aime comme Dieu nous aime. Et nous apprenons ainsi que, pour Dieu, demander, c'est déjà aimer. C'est-à-dire que se faire attente vis-à-vis de l'autre, c'est déjà l'aimer profondément. Et c'est tellement vrai et c'est tellement beau de considérer que l'amour ne consiste pas seulement à donner, mais l'amour consiste aussi à recevoir. Et nous croyons que Dieu va jusque-là, c'est-à-dire qu'il nous demande, il se fait presque mendiant devant nous, et ce faisant, il nous aime profondément. Nous savons très bien que lorsque nous sommes devant une personne qui est en grande difficulté, une personne dans une grande pauvreté, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est pas seulement de combler cette personne dans ses attentes, ce qui va lui rendre vraiment sa dignité, c'est de lui donner, de pouvoir donner à son tour, elle. C'est-à-dire de pouvoir qu'elle puisse à son tour donner et recevoir ce que une pauvre personne très en difficulté veut me donner, d'abord peut-être son amitié. Mais c'est déjà l'aimer que de recevoir ce qu'elle veut donner. Voilà une très belle piste que Jésus ouvre dans notre découverte de qui il est et de comment Dieu nous aime.
Et puis pour poursuivre ce récit de la Samaritaine, c'est vrai qu'elle part, elle laisse sa cruche de côté, et vous expliquez qu'en fait quand Dieu donne, il n'ajoute pas quelque chose qui nous manquait, mais il ôte ce que nous avions en trop. Il fait un travail d'émondage finalement.
Mais oui, c'est toujours ça. Quand on regarde les miracles de Jésus, par exemple, et à chaque fois, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose et que Jésus va nous l'apporter. Oui. En fait, il fait le contraire. Il chasse les démons, il enlève les écailles qui est devant les yeux de l'aveugle, et cette cruche-là qui est laissée là, abandonnée au bord du puits. L'œuvre de Dieu en nous, ce n'est pas de venir combler un vide, c'est de venir désencombrer une source. Enlever ce qu'il y avait de trop et qui empêchait en quelque sorte la source de Dieu, l'Esprit Saint en nous, l'eau vive dont il parle à cette femme, de couler vraiment et de jaillir. C'est tellement plus vrai et plus évangélique de comprendre ainsi ce que Dieu fait dans notre vie. Nous rêvons toujours d'un Dieu qui viendrait combler nos vides.
Ah oui.
Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe.
Ouais, c'est pas ce qui
Il
se
vient
passe.
Au contraire enlever ce qu'il y a en trop, désencombrer la source.
Et Père Pierre-Alain, la prière est quand même une... Enfin, on peut dire que c'est le summum de la rencontre. Comment vous pouvez expliquer justement cette rencontre et le fait qu'elle nous comble ?
Elle nous comble différemment que ce que nous pensons, bien sûr. Elle ne nous comble pas selon nos attentes. Nous avons beaucoup d'attentes intérieures, mais la prière, bien sûr, je le crois profondément, la prière comble l'être humain, mais en fait, elle décale complètement notre attente. Dans la mesure où la prière est une rencontre, bien sûr, parce que tant qu'on ne vit pas la prière comme une rencontre, on risque fort de ne faire que se chercher soi-même, que de tourner autour de nous-mêmes, en fait. Et le propre de la prière chrétienne, c'est d'être une rencontre. Une rencontre avec le Seigneur Tout-Puissant, bien sûr, et qui se joue non pas sur le même registre que nos rencontres humaines, mais qui est tout aussi réelle, et même peut-être encore bien plus réelle. Je ne crois pas que la prière comble nos attentes. En revanche, elle creuse en nous cet espace intérieur. Je prends souvent l'image du jardin, hein, comme un espace vaste et qu'il nous faut cultiver, et qu'il nous faut débarrasser des ronces et des orties. Un espace intérieur où se vit vraiment la rencontre de Dieu. Je crois que c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui racontait « Au fond de moi, il y a un jardin. Au fond de ce jardin, il y a un puits. Au fond de ce puits, il y a de l'eau. Et cette eau, c'est Dieu. »
Et cette eau, c'est Dieu. Et Thérèse d'Avila dit aussi que la prière n'est rien d'autre qu'un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent et intimement avec celui dont nous savons qu'il nous aime.
Exactement. Commerce d'amitié. Alors, commerce dans le sens du XVIe siècle et non pas aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'affaires commerciales, mais le commerce dans l'ancien langage, c'est ce qui est de l'ordre de l'échange, la relation, l'échange au sens très large. C'est un échange d'amitié avec celui dont on se sait aimé. Quand la prière est vécue ainsi, alors oui, elle est une rencontre, même si on est très désarçonné devant cette rencontre, parce que bien sûr, on ne voit pas et qu'on n'entend pas, et que c'est autrement que Dieu nous parle. Et c'est autrement que nous avons à accueillir sa présence.
Et toutes ces rencontres, finalement, et vous terminez par là, Père Pierre-Alain Lejeune, dans votre livre, toutes ces rencontres nous préparent, enfin, vous invitez à ce qu'elles nous préparent à l'ultime rencontre. Vous avez cette jolie expression en disant que toutes ces rencontres de notre vie sont des entraînements pour cette rencontre éternelle.
Mais oui, parce que je crois que Dieu nous a créés pour cela. Dans cet unique but, il nous a créés pour nous rencontrer. Et cette vie qui dure sur cette terre quelques années, quelques décennies, je crois, nous est donnée pour nous préparer à l'ultime rencontre, à la grande rencontre, un peu comme on se prépare à un rendez-vous galant. Et je crois vraiment que quand on vit nos rencontres ainsi, c'est-à-dire quand on vit toute notre existence comme la préparation à la rencontre de Dieu, mais ça change tout de la vie.
Oui, c'est ça.
Alors il ne s'agit pas de tomber dans une sorte de perception morbide de la vie, comme s'il fallait ne vivre qu'en se préparant à mourir. Mais il y a de ça, je crois. Et non pas dans un sens macabre, mais au contraire, ça remplit la vie, ça fait grandir chacun dans la recherche, dans la vie et dans la manière dont il vit ses rencontres. Et si Dieu nous envoyait les uns vers les autres, nous apprenait à nous aimer les uns les autres pour préparer nos cœurs à cet amour infini, cet amour fou dont il veut nous combler un jour.
Oui. Donc à nous de vivre ces rencontres comme un poids d'éternité finalement, avec cette intime conviction que Dieu est présent au cœur de toutes ces rencontres.
Exactement. Et à nous de vivre ces rencontres comme une préparation à la rencontre de Dieu. Et comme si déjà c'était Dieu que nous rencontrions en l'autre. Enfin, Jésus nous met sur cette piste tout au long de l'évangile. Hein. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus nous aide à découvrir que dans chaque relation humaine, nous pouvons rencontrer Jésus-Christ. Mmh. Et particulièrement dans le pauvre, le petit, l'étranger, le blessé, le malade. C'est ainsi qu'il vient à nous. C'est ainsi qu'il, petit à petit, il nous travaille, il nous altère, il nous fait sortir de nous il nous fait advenir à nous-mêmes, il nous fait aimer à la dimension de son amour à lui.
C'est déjà l'heure de nous quitter, Père Pierre-Alain Lejeune. Merci beaucoup. Mais oui, alors les auditeurs pourront lire évidemment votre livre, L'éloge spirituel de la rencontre aux éditions Arthège, un livre très, très riche sur toutes ces rencontres qui nous conduisent à l'ultime rencontre avec Dieu. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci et bonne journée.